Bonjour à tous. Merci pour ce chant magnifique. J'espère qu'il va être mis sur le site. Il est très beau. Hein? C'est Esther qui a fait les paroles et Stéphane la musique. Et c'était chanté par Noémie et ma petite chérie Ellie. Avec Esther aussi. C'était magnifique pour mon anniversaire, mes 52 ans grâce au docteur Pitkowski. Ben oui. Voilà, j'ai reçu beaucoup de textos, beaucoup de SMS, beaucoup de PKZ et tout ce que vous voulez aujourd'hui, des Facebook et compagnie, et même un téléphone de Marc Rosa depuis le Madagascar. Ça fait chaud au cœur, un peu de soleil dans cette neige, mais quelle horreur. Quand j'ai ouvert ce volet ce matin et puis que j'ai vu ça, je dis non. Franchement, le jour de mon anniversaire. Eh ben, on restera plus longtemps à table, voilà, c'est tout. Mais voilà, c'est bien. Mais c'est très beau, hein. C'est juste dommage que ça soit froid. Ça serait chaud, ce serait génial, hein. Mais bon, c'est froid. Par ça, c'est très beau. Merci Seigneur pour cette belle neige froide. On a ressorti les chaussures qui vont pas avec le pantalon, mais que si vous voulez, comme ça. C'est un peu pâte au gaz, non? Ça va. Voilà, on est content d'avoir Francis avec nous encore aujourd'hui. Cette semaine, on est allé voir Violette, Raphaël, on a mangé chez Francis. C'était une très bonne soirée. Et ça fait toujours plaisir de revoir les deux vieux, comme on dit maintenant. Hein, Violette, elle a 82 ans, Raphaël, 83, je crois. Hein, ça ne rajeunit pas non plus. Ils vieillissent en même temps que nous. Là, j'ai mon ami et frère jumeau, Victor Escroignard, qui est son anniversaire aussi, mais lui, il est à Jérusalem. Alors, c'est à l'autre bout du monde aussi. Et puis, je le vois le 12, non, le 13, c'est ça, chéri? Je ne sais plus. Enfin, voilà, on va le voir. Et ça me fait plaisir. Il va partir, je crois, au Brésil, c'est ça, pour une mission là-bas parmi des Juifs, que Dieu soit béni. Je pense que dimanche prochain, nous aurons normalement quelques Mormons qui vont venir nous visiter. Ils veulent voir qu'est-ce que c'est un culte chez nous. C'est bien. Alors, il faudra les recevoir comme on a l'habitude de recevoir les gens. Comme le frère Francis a fait l'autre jour. Il leur a sauté au cou, les a embrassés. Ils étaient étonnés parce que ce n'est pas tellement la coutume chez eux. Ils étaient tout gênés. Alors, voilà. Mais c'est des gens charmants. Bon, ils ont des choses qui ne sont pas comme les nôtres. Mais nous aussi, on a des choses qui ne sont pas comme les leurs. Donc, voilà, on peut avoir de la tolérance, de la gentillesse, du respect, même si on n'est pas d'accord avec tout. On va lire Jean chapitre 12, verset 27. La musique est très belle, Stéphane. Hein? Il faudra... Vraiment, elle est très belle. Hein? On va mettre des paroles un peu qui me concernent un peu moi. Et puis elle est vraiment magnifique. Jean 12, 27. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chaque fois que je parle de Jésus aux gens, depuis quelque temps, ça fait ça. Toujours la même question qui revient. Depuis quelques mois, est-ce que vous croyez que la fin du monde sera pour 2012? Alors je réponds évidemment que je n'y crois pas du tout, et puis je leur explique ce que la Bible dit au sujet de la fin du monde. Je ne vais pas vous répéter ça encore une fois, on a déjà dit 150 fois, j'écris des bouquins là-dessus, bon, tout est sur le site Révélation Bible. La Bible nous dit par contre aussi que au temps de la fin de l'Église dans les nations, il y aurait beaucoup de faux prophètes. Quand c'est écrit la fin des nations, le temps, la fin des nations, ça veut dire le temps de la fin de l'Église dans les nations. Hein? Et il y aurait beaucoup de faux prophètes. Cette prophétie sur 2012, elle fait partie des fausses prophéties. Et ce ne sera pas la fin du monde en 2012, ça c'est sûr. Dans Joël 2, 23 à 29, il est écrit que Dieu va restaurer toutes choses. Et que son peuple, ceux de son Église, ne serait plus dans la confusion. Et qu'il répandra son esprit sur toute chair. Le fait que quelqu'un ait reçu le Saint-Esprit dans sa vie et qu'il continue à être rempli du Saint-Esprit fait qu'il n'est plus dans la confusion. Si, après avoir travaillé pour Dieu, vous avez besoin d'aller être rempli à nouveau du Saint-Esprit, c'est normal. Parce qu'on prend des coups, on prend des chocs dans ce monde, alors on va se réfugier auprès de notre Seigneur qui nous remplit à nouveau du Saint-Esprit, mais on n'est pas dans la confusion. Et c'est ce que Moïse avait demandé en son temps, c'est que l'Esprit de Dieu descende sur le peuple, n'est-ce pas? Il avait dit, dans Nombre 11, 24 ou 29, je ne sais plus, il disait, « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille, Éternel, mettre ton esprit sur eux. » Vous voyez? Et là, en fait, il était exaucé. Dieu a commencé à répandre de son esprit sur son peuple le jour de la Pentecôte. En fait, ça a été la première réalisation de cela. La première effusion du Saint-Esprit. Il faut bien lire dans les textes ce qui est écrit. Pour comprendre correctement, c'est nécessaire de bien lire correctement. Si on ne fait pas attention, alors on peut être étonné. Il est dit là dans Joël 2, 23, « Il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison. » Comme autrefois. Vous voyez, mes frères et sœurs, il y a une pluie de la première saison, ça c'était le jour de la Pentecôte, et il y a une pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison est arrivée, et puis ensuite, donc le Saint-Esprit était répandu là, et puis ensuite, l'apostasie est entrée dans l'Église, ça a commencé avec le nicolaïsme, et il y a eu à partir de là deux Églises, la vraie et la fausse. La fausse, elle est officielle. Elle est reconnue, elle est déclarée dans tous les trucs officiels, n'est-ce pas? Et puis, elle s'est imposée, n'est-ce pas? Elle a progressé à coups d'intrigues, de meurtres, de sorcellerie, d'inceste, toutes sortes d'horreurs. Mais la vraie Église, elle, n'est pas officielle. Elle est composée de personnes qui aiment Jésus et qui sont là, mais qui sont en général mal compris, persécuté, en fait elle est cachée, Dieu seul la connaît, la vraie Église. Et la réforme est arrivée avec Luther, Martin Luther, à ne pas confondre avec Martin Luther King que j'aime beaucoup aussi, et puis le rétablissement de toutes choses a commencé par le ministère d'Élie, et je vous rappelle que c'était donc aux États-Unis, chose qui est normale que ça commence aux États-Unis, puisque Dieu avait permis qu'il y ait un pays, une nation, qui est dans sa constitution la liberté religieuse. Ça n'aurait pas pu, le rétablissement de toutes choses n'aurait pas pu commencer en France, c'était la persécution, ça n'aurait pas pu commencer en Israël non plus, comme en général les choses de Dieu commencent en Israël, mais là non, parce que ce n'était pas possible à l'époque, c'était comme ça. Et voilà, donc ça a commencé en Amérique, pays de la liberté religieuse. Et puis, Dieu a ouvert la voie au travers de son prophète pour que nous puissions aujourd'hui continuer l'œuvre de la restauration de l'Église et accomplir Malachie 4, 6 qui dit « Il ramènera le cœur des enfants à leur père ». Ça, c'est la seconde partie parce qu'il y a aussi deux parties. La première fois qu'Élie est venu, il a ramené le cœur des pères à leurs enfants, puis maintenant, c'est le contraire. Et cela signifie que nous sommes les enfants de la pluie de l'arrière-saison dont parle Joël 2, 23. Hein, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, nous manifestons les dons du Saint-Esprit, il y a les ministères du Saint-Esprit, ces choses ont été rétablies, dont Joël en parle, il dit, je vous remplacerai ce qu'a dévoré la fausse Église, hein, vous lirez tout ça chez vous, et nos cœurs maintenant sont ramenés à nos pères, c'est-à-dire à ceux qui nous ont précédés, et nous les aimons, et nous nous faisons baptiser à leur place, exactement comme ça se faisait lors de la première saison en Israël, et ensuite dans l'Église au début de sa vie, jusqu'au concile de Carthage, au IVe siècle, où ça a été interdit par la fausse Église. Et ils ont commencé à persécuter la vraie Église, parce qu'ils voulaient continuer, et puis ça s'est effacé petit à petit, l'apostasie a gagné, mais maintenant c'est rétabli. Donc, nos cœurs sont poussés vers nos pères. Amen. La pluie de l'arrière-saison, donc, est venue, et c'est-à-dire, Dieu répand son esprit sur toute chair, en ce moment. Toute chair, sur la chair de ceux de son peuple, évidemment, pas sur des gens charnels qui sont révoltés contre Dieu, mais Dieu répand sur ceux qui sont de chair, dans un corps de chair, comme nous, mais dans la véritable Église, pas dans la fausse Église. Dans la fausse Église, vous avez des gens qui sont des véritables enfants de Dieu, mais voilà, il faut qu'ils sortent. L'invitation, c'est qu'ils doivent sortir de là. C'est difficile pour eux. Je sais ce que c'est, parce que j'ai dû sortir moi-même. C'est difficile, ça fait mal au cœur. Les fils et les filles prophétiseront, nous dit Joël, à cette époque-là, donc à notre époque. Les vieillards auront des songes, les jeunes gens auront des visions. Vous trouvez ça dans Joël 2, verset 28. Dans la première saison, c'est-à-dire à partir de la Pentecôte, pendant quelques années, c'est comme ça que ça s'est passé. Les fils et les filles prophétisaient, les vieillards avaient des songes, les jeunes gens avaient des visions. Et puis ensuite, il y a l'apostasie qui est arrivée, et maintenant Dieu rétablit, et de nouveau, on voit des jeunes gens et des jeunes filles qui prophétisent, qui ont des visions, des vieillards qui ont des songes, etc. Vous voyez? Les choses reviennent. Dans la vraie Église de Jésus-Christ, il faut savoir que Dieu n'a pas que des serviteurs, il a aussi des servantes. C'est une chose qui doit être rétablie aussi. Elles reçoivent le même Saint-Esprit que Moïse, le même. Ce n'est pas un Saint-Esprit un peu inférieur ou un peu gaga, un peu, vous savez, qui s'occuperait que de couture et de machin comme ça. Non, non, non. C'est le même Saint-Esprit que celui de Moïse. Je ne veux pas dire que la couture, ce n'est pas bien. Mais les femmes ont d'autres choses à faire aussi dans l'Église que les choses comme ça, comme la couture, mais de s'occuper des choses réellement importantes pour le royaume de Dieu, comme Moïse, comme Élie, le même Saint-Esprit que Jésus lui-même a reçu, n'est-ce pas, que les 120 ont reçu à la Pentecôte. Il dit, Joël, dans le chapitre 29, au verset 29, « Oui, même sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-ci, je répandrai de mon esprit. » Ce que je vous dis, ce n'est pas de la doctrine, c'est ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Si vous êtes une servante de Dieu, vous n'êtes pas une servante juste pour faire la lessive, le repassage et la cuisine. Il y avait une fois un couple, on a regardé ça hier soir avec Francis. Alors il y a le mari en train de lire son journal pendant que la femme fait le repassage. C'est un petit film qu'on a vu. Alors elle lui dit, chérie, vraiment, je prends conscience que tu as vraiment beaucoup trop de travail. C'est vraiment trop difficile. Alors on va partager. Et puis elle dit, oh, ben dis donc, j'en reviens pas. Oh, mais attends, faut que je m'assoie alors. Ça, c'est formidable. Il dit, ouais, on va partager. Alors écoute bien, voilà le programme. Toi, tu vas t'occuper du ménage, de la lessive, de faire la manger, nettoyer la maison, enfin tout ça. Puis moi, je m'occuperai des choses importantes. Ah ben, tu fais rien donc alors. Non, je m'occupe des choses importantes. Ouais, mais si je fais la lessive, le repassage, tout, toi, puis le ménage, qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, je m'occupe de l'inflation dans le monde, je m'occupe de la faim dans le monde, je m'occupe de la politique, je m'occupe. Mais c'est un petit peu ça dans l'Église. C'est un petit peu ça dans l'Église. On relègue les sœurs, n'est-ce pas, dans des trucs. Mais elles ont le même Saint-Esprit que nous pour faire les mêmes choses que nous. Il faut que ça soit rétabli. Tout le monde dit? Amen. Vous voyez, c'est pas. On a bien besoin de doctrine, c'est vrai. Je dis, c'est pas une doctrine, c'est vrai. Mais on a quand même bien besoin de doctrine parce qu'elles nous permettent de voir la vérité. La doctrine nous permet de voir la vérité. Les doctrines, c'est un petit peu comme des fenêtres, comme des vitres. Ça vous permet de voir la vérité, mais ça vous empêche de la toucher. Ce matin, quand j'ai ouvert mon volet, j'ai vu à travers la vitre, parce qu'il y avait quand même une vitre. La neige, horreur et putréfaction, il a neigé, il va falloir marcher là-dedans, quelle horreur! Hein, mais j'étais bien caché derrière ma vitre, je risquais rien. Mais quand j'ai ouvert la fenêtre, boum, le froid est arrivé, et puis après il a fallu que j'aille, n'est-ce pas, marcher dans la neige et toucher la réalité. Eh bien, vous voyez, la doctrine, elle vous permet de voir la neige, la réalité. Mais elle vous empêche de la toucher. Alors il faut ouvrir la fenêtre maintenant. Il faut aller plus loin que simplement la doctrine. Il faut rentrer dans la vie pratique, de pratiquer les choses que nous trouvons dans la parole de Dieu. Doctrine, c'est des vitres, sont nécessaires, mais il faut sinon les casser, au moins les ouvrir. Il ne faut pas casser les doctrines, mais il faut être ouvert. Vous avez reçu parce que Dieu a répandu de son esprit sur vous, et vous qui êtes de chair, mais qui vivez, qui vous tenez dans la véritable Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le troupeau de ceux qui veulent lui obéir au plus près de ce qui est révélé maintenant. Alors, il nous est dit que vous devez prophétiser, que vous devez avoir des songes, que vous devez avoir des visions. Priez pour ça, attendez-vous à ça, manifestez cela. Il faut prophétiser, il faut avoir des songes, Soyez prêts. Si vous n'y croyez pas, ça va pas vous arriver. Mais si vous croyez que c'est le moment, que c'est la pluie de l'arrière-saison qui est arrivée, que ces choses doivent vous arriver, vous allez avoir cela. Les jeunes gens, les jeunes filles, les vieillards, tout le monde, on a tous quelque chose à recevoir de Dieu pour pouvoir donner aux autres. Alors ne laissez pas les faux prophètes avoir le monopole de la parole. Prenez la parole. Ils annoncent la fin du monde pour 2012, c'est faux. Dites-le. Appuyez ce que vous dites avec les Écritures. Montrez ça au plus grand nombre de personnes possible. Soyez des vrais prophètes avec le vrai message. Nous avons le vrai message tant que nous restons basés sur ce que la Bible nous dit. Jésus ne faisait que ce que le Père lui disait de faire. Jésus ne disait que ce que le Père lui disait de dire. Et ce jour-là, il était troublé. Et il exprima son trouble devant les siens, mais aussi devant la foule qui était là. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Vous voyez, je ne sais pas ce qui vous trouble. Je ne sais pas ce qui vous trouble. Mais même l'âme troublée, Jésus cherchait à faire la volonté de Dieu. Que dirais-je? Eh bien, il ne pria pas pour que son trouble le quitte. Il n'esquiva pas son trouble en se distrayant avec d'autres choses. Ne vous servez pas de votre foi pour être délivré de la contrainte que vous impose le Saint-Esprit. C'est une contrainte. C'était pour ça qu'il était troublé, Jésus. Parce qu'il y avait une contrainte là, quelque chose de terrible. Jésus disait, l'âme troublée, que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure? Non. Mais l'idée lui est venue. L'idée lui est venue de demander à Dieu d'être délivré de cette heure qui le troublait, de ce qu'il attendait, de cette contrainte, de ce sacrifice. Mais il se ressaisit rapidement. Ne laissez pas le trouble s'installer. Vous savez, quand j'étais opéré, là, il y a 3 ans, ça fait déjà 3 ans, si je n'avais pas été opéré, il me resterait plus que 2 ans, peut-être je serais déjà mort. Rien que 10 ans, zut, t'es opéré. Non, 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 depuis quand j'étais opéré, alors j'étais là allongé sur mon lit et puis j'avais mal. Alors l'infirmière me dit, mais prenez un calmant. Je dis, oui, mais j'en ai déjà pris un il y a 1 heure. Mais attendez pas que ça s'installe, prenez un médicament, prenez le calmant, n'attendez pas que ça s'installe. Si ça s'installe, après ça devient pire. Et j'ai appris quelque chose là. C'est quand ça commence qu'il faut, quand le mal commence, il faut le prendre tout de suite à la gorge. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que ça s'installe. Le trouble, ne le laissez pas s'installer. Prenez-le à la gorge tout de suite. Et puis, soyez vainqueur. Il dit, mon âme est troublée. Qu'est-ce que je vais dire? Père, délivre-moi de cette heure. Non! Il dit, non! Il se ressaisit. Il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour ce sacrifice. C'est pour cette horreur que je suis venu. C'est pour cette contrainte, c'est pour ce que je n'aime pas là que je suis venu. Alors, vous voyez, il se ressaisit. On est en 2012 et toi, tu es venu jusque-là. Tu en es là et tu es venu jusque-là. Mercredi soir, on avait notre repas. Vous savez, peut-être ceux qui ne sont pas dans la communauté ne savent pas. Alors, je vais leur dire, le mercredi soir, Michou et moi, on invite quelques personnes de la communauté à venir manger avec nous. Et c'est à chacun son tour de faire un repas. Donc c'est une très bonne méthode parce que comme c'est chacun son tour, eh bien chacun fait pour que ça soit encore mieux que le mercredi d'avant. Donc c'est toujours des repas gargantuesques et c'est toujours là les meilleures choses qu'on mange au château. Bon, c'est formidable. Et on était en train donc de bien manger. Attendez, c'était Dominique qui arrosait, je crois, ce jour-là. C'était qui? Oui, c'était Dominique. Et tout d'un coup, Stéphane me dit, Michel, est-ce que tu te rends compte que j'ai passé la moitié de ma vie dans la communauté avec toi? Je dis, waouh! La moitié de sa vie. En effet, il a passé la moitié de sa vie déjà dans l'église de Jésus-Christ. Puis je disais ça à Philippe avant-hier au petit déjeuner. Il me dit, mais moi aussi, en faisant le calcul, il dit, et moi aussi. Et puis il y avait Esther qui était en train de débarrasser, puis il dit, moi j'y ai passé toute ma vie. Vous voyez, c'est extraordinaire. Nous avons vécu jusqu'à cette heure. Nous avons vécu jusqu'à cette heure. Pourquoi? Pourquoi nous avons vécu jusqu'à cette heure? Pour vivre cette heure, mais pour la vivre comment? Avec un trouble qui s'installe? Non. Avec un nouveau, comme diraient nos frères branhamistes, un nouveau remplissage du Saint-Esprit. Je déteste cette expression, mais elle me fait un peu rire, alors je la cite. Nous sommes venus jusqu'à cette heure et nous devons être encore remplis du Saint-Esprit, à nouveau remplis du Saint-Esprit si nous ne le sommes pas. Nous ne devons pas laisser le trouble s'installer en nous, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une bonne chose. Je suis troublé. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai le choix. Qu'est-ce que je vais dire? Père, délivre-moi de ce trouble? Non, je suis venu pour ça. Waouh! Vous voyez, la virilité de Jésus, c'est magnifique. Et maintenant, que dirons-nous? Père, délivre-moi de ce qui me trouble dans cette heure, dans ce moment, dans ce sacrifice que je dois faire, dans ce renoncement à mon intellect, dans ce renoncement à je ne sais pas quoi. Non, mes frères et sœurs, à l'image de Jésus, nous dirons, c'est pour cela que nous sommes venus jusqu'à cette heure. Hein, Stéphane, c'est pour cela que ça fait la moitié de ma vie, je la passe là, j'ai quand même pas, hein. Je suis peut-être, vous êtes peut-être troublé. Moi, ça m'arrive des fois d'être troublé. Mais, que dirais-je? Eh ben, la parole de foi, remplie du Saint-Esprit. Et comme Jésus disait, après avoir dit cela, après avoir fait le choix de la parole de foi qu'il voulait prononcer, je suis venu pour cette heure-là. Alors il a dit, Père, glorifie ton nom. Frères et sœurs, je vous parlais d'Enoch, qui avant de partir dans son enlèvement, a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu et Jésus aussi a eu ce témoignage. À quel moment de sa vie, quand il était en train de siroter un petit Cointreau champagne sur une terrasse luxueuse. Non, au moment le plus trouble. C'est pas quand tout va bien. Il était dans le moment le plus trouble. Il était troublé et c'est là qu'il a reçu le témoignage, n'est-ce pas, qu'il était agréable à Dieu. Vous avez entendu ce que Jésus dit? Mon fils, amen. Le jour où son âme était troublée, là, devant ce qui le troublait, il ne recula pas. Il savait que l'avenir lui réservait quelque chose d'horrible, une mort affreuse sur une croix en public, mais il ne recula pas devant le sacrifice qu'il devait faire. Je suis venu pour cela, jusqu'à cette heure, je suis venu pour cela. Père, glorifie ton nom. Et là, le témoignage est venu du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu a glorifié son nom là, parce qu'il était manifesté en une personne, Jésus. Et Dieu le glorifiera encore lors de la pluie de la dernière saison, en rétablissant son nom dans l'église de Jésus-Christ. Ça n'est pas une église pentecôtiste, ça n'est pas une église branhamiste, ça n'est pas une église méthodiste, ça n'est pas une église... Tout ça, c'est des noms de blasphème. Le seul nom que nous devons glorifier, c'est le nom de Jésus, parce que Jésus... Il est notre Dieu, notre Créateur, le fondateur de son Église, et c'est l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas une autre Église. Amen. Amen. Et nous croyons que notre Dieu s'appelle Jésus, et nous croyons que le nom du Saint-Esprit, c'est
Jésus.
Amen, c'est Jésus. Beaucoup ne le croient pas, nous le croyons. Et la foule était là, et certains disaient, qu'est-ce que c'est que ça? Un coup de tonnerre? D'autres disaient, oh, c'est un ange qui lui a parlé. Vous voyez, eux, ça c'était des spirituels. Et Jésus dit, c'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Mais c'est quand même bizarre parce que presque personne n'a compris ce que cette voix disait. Vous voyez, Dieu se fait entendre, mais il ne se fait pas comprendre. Ah, il se fait comprendre aux siens. Il se fait comprendre aux siens. Et Jésus ajoute, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde est jeté dehors. Quand Dieu parle, le jugement de Dieu se fait. Le prince de ce monde est jeté dehors. Et de nos jours, mes frères et sœurs, il y a ceux qui comprennent la voix de l'archange, qui parle de nos jours. Vous savez que la Bible dit qu'il y aurait, juste avant le retour de Jésus, il y aurait un signal donné, dans 1 Thessaloniciens 4, je crois. Un signal sera donné, ensuite il y aura une voix d'archange, et puis après il y aura une trompette de Dieu. C'est seulement là que Jésus viendra dans les cieux et nous partirons à sa rencontre. Et là, le signal a déjà été donné, maintenant c'est la voix de l'archange qui parle. Et ceux... qui entendent cette voix-là, eh bien, la plupart croient que c'est comme un coup de tonnerre, du bruit, quelqu'un qui gueule, quelqu'un qui crie, quelqu'un qui dit des choses qui font un peu peur. Mais mes frères et sœurs, vous êtes la voix de l'archange, il faut faire entendre votre voix, il vous faut prophétiser, avoir des songes qui vous inspirent pour vos prophéties, avoir des visions qui vous inspirent pour vos prophéties. Dieu ne parle pas, ne va pas vous parler à cause de vous, il ne va pas vous parler pour fortifier votre petit cœur vous le fortifiez quand vous parlez en langue dans votre secret, dans votre lieu secret, comme dit mon frère Arthur. Dieu ne parle pas à cause de vous, il parle à cause des autres, il va vous donner des songes à cause des autres, il va vous donner des prophéties à cause des autres, à cause de ceux qui vous côtoient. Que dirais-je? Délivre-moi de cette heure qui me trouble? Non, non, pas du tout. Ce qui arrive sur terre, mes frères et sœurs, c'est grave. Et c'est vrai que beaucoup sont troublés. Mais c'est encore rien du tout. La Bible dit que les gens vont rendre l'âme de terreur au bruit que fera la mer. Qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup de gens disent, ah bon, il va y avoir des raz-de-marée, des tsunamis, ah ben voilà. Non, 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 oui, peut-être ça aussi, c'est sûr, mais il n'y a pas que ça. La mer, ça représente les peuples. Et les gens vont rendre l'âme en entendant les peuples, en voyant les masses bouger, en voyant les horreurs qui vont se produire dans ce monde avec des foules. Vous avez vu encore ce qui s'est passé en Égypte, tous ces morts là dans un match de foot. C'est terrible. Les gens commencent à avoir peur, peur de la foule, peur du monde, peur des gens, peur de ces mouvements de masse. C'est un petit peu comme des tsunamis qui arrivent, ça vous engloutit, ils ont peur, rendront l'âme de terreur. Et ça ne sera pas la fin du monde, en 2012 ce ne sera pas, mais ça sera ces choses-là qui vont arriver. Notre âme est troublée. Parce qu'au milieu de tout ça, l'Esprit nous pousse à la croix, c'est-à-dire il nous pousse à renoncer à notre propre vie, il nous pousse à nous sacrifier, c'est-à-dire à être ses serviteurs, à être ses servantes. Et nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour recouler dans les églises, comme beaucoup pensent, mais nous avons reçu pour être des prophètes, pour être des témoins, pour être des visionnaires. Et le message que nous avons à délivrer, il nous oblige à renoncer à notre petit confort personnel, n'est-ce pas? Parce que moi, j'aime beaucoup être aimé. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, j'adore être aimé. Et si je peux éviter de dire quelque chose de désagréable à quelqu'un juste pour qu'il m'aime, ben alors là, je suis le champion. Mais j'ai compris par l'Esprit de Dieu qu'il ne faut pas faire ça. Et maintenant, j'ai changé. Ça fait quelques années. J'ai dit, ben tant pis, ils ne m'aimeront pas. Mais moi, je dis la vérité maintenant. Pas une vérité blessante, mais une vérité qui sauve. Parce qu'ils ont besoin d'être sauvés. C'est pas dire, je suis chrétien, donc je dis la vérité, je dis n'importe quelle vacherie. Non, 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 non. J'annonce la parole de Dieu, je dis pas mes petites vacheries qui me passent par la tête. C'est pas ça dire la vérité. Et le message que nous avons à délivrer nous oblige à notre sacrifice. Ce message n'est pas populaire, mes frères et sœurs. Aux incroyants, nous avons à déclarer, repentez-vous. Sinon, vous n'échapperez pas à la colère de Dieu qui vient. C'est pas très populaire. Hein? On aimerait mieux leur dire, mais Jésus vous aime, vous savez. Il est rempli d'amour pour vous. Bien sûr, on leur dit ça aussi, mais si on leur dit ça comme ça, vous savez, excusez-moi, vous allez dire encore que j'exagère, mais moi, mon chien, si je veux qu'il fasse quelque chose, c'est pas en lui disant, « Ah non, mon petit chien, tu vas obéir à ton papy Pounet qui est gentil, Non, je dis, « Pater !» Et il comprend là, ouh, il est saisi comme une frite. Eh bien, les gens, il faut le saisir comme des frites aussi. Il ne faut pas y aller, vous savez, le doux Jésus avec les pommettes roses qui vous aime tant, gna 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 gna. Il faut leur dire la vérité, il y a la colère de Dieu qui est suspendue sur votre tête. Si vous ne vous repentez pas, vous irez griller en enfer. Excusez-moi de vous dire ça, ce n'est pas très gentil, ça peut vous faire peur. Hein. Vous allez prendre ça pour un coup de tonnerre dans votre vie. Mais c'est la parole de Dieu. Aux croyants, vous avez à dire, sortez des églises qui portent des noms de blasphème. Sortez des églises qui portent un nom. Sortez, parce qu'elles ont des noms de blasphème. Croyez-vous qu'ils vont vous aimer? Non. La plupart de ceux qui vont vous entendre, comme je vous le disais, ils vont vous entendre comme un bruit de tonnerre, c'est-à-dire comme quelque chose de fort qui fait un peu peur. Et puis qu'on s'empresse de vite oublier en disant « Après la pluie, vient le beau temps, ça ira mieux. » D'autres vont spiritualiser les choses, comme ceux qui ont cru que c'était des anges, n'est-ce pas? Nous sacrifions bien des amitiés à cause de l'amour que nous avons pour ces gens. Nous leur parlons à cause de l'amour, mais ils ne comprennent pas que c'est à cause de l'amour que nous leur parlons. Voilà, c'est comme ça. Croyez-vous qu'ils aimeront votre message? Non. S'ils n'aiment pas votre message, ils ne vous aimeront pas non plus. Ils rejetteront votre message et ils cesseront de vous aimer. Ils ne vous aimeront pas. Ça trouble. Moi, j'aime tellement être aimé. Et pour le moment, ils sont encore calmes. Ils sont encore calmes, tous ces gens-là, parce qu'on ne prophétise pas assez ou pas assez clairement. Il faut vous réveiller et il vous faut prophétiser. Alors vous allez les voir grincer les dents contre vous. Si vous dites vraiment ce que Dieu veut que vous disiez, Jésus est à la porte, ça n'est pas une plaisanterie, prophétisait David Wilkerson. Et il a fait peur aux gens du monde avec ça. Eh Michel, après avoir écouté tout cela, maintenant mon âme est troublée. Eh ben, je vous avoue, je sais, j'ai fait exprès. Si quelqu'un entend ce que je dis et ne garde pas cela, ce n'est pas moi qui le jugerai. Non. Mais celui qui rejette cela, il a son juge. Qui est ce juge? C'est cette parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au jour du jugement dernier au trône blanc. Vous allez dire, mais Michel, t'es bien prétentieux. Non, ce que je vous dis là, c'est Jésus qui dit. Mais Jésus m'a dit de vous le dire. Jésus dit qu'il faut que vous le sachiez. Que c'est... Jésus n'est pas venu pour juger. Moi, je ne suis pas venu pour juger. Mais je suis venu pour vous dire qu'il y a un jugement qui vient et qu'il faut que vous soyez en ordre. Alors, ça peut vous troubler, mais comment vous allez réagir? Eh bien, faites comme Jésus. Non, je suis venu jusqu'à cette heure pour faire la volonté de Dieu. Ben, je ferai la volonté de Dieu. Prophétisez, serviteurs et servantes de Dieu. Ne jugez pas les gens, mais prophétisez. Vos paroles sont paroles de Dieu. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, de bénir mes frères, mes sœurs, de les aider dans cette prise de conscience et de les aider dans leurs actions, parce que la foi... Sans les actes, ben c'est de la rigolade, c'est même pire que la rigolade, c'est de la mort. Je demande, Seigneur Jésus, de leur faire comprendre bien ces choses et qu'ils puissent être véritablement des gens consacrés. Parce que je sais que si on ne vit pas ce qu'on prêche, eh bien ce qu'on prêche ne donne pas la vie. Merci Jésus. Amen.